السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، la fois dernière, on s'est arrêté à la réaction de Anas ibn Nadr en particulier, radiyallahu anhu. C'était plus global, c'était la réaction des compagnons, les réactions positives des compagnons face à la rumeur qui s'était propagée à la fois dans le camp des idolâtres et dans le camp des musulmans, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. On a dit que cette rumeur dans la bataille de Uhud, elle fait suite à une série d'événements qui vont se dérouler les uns après les autres en cascade, qui vont conduire entre guillemets à un engrenage, à une confusion totale dans l'armée des musulmanes, qui va même faire basculer la victoire. C'était une victoire pour les musulmans, ça va la transformer en échec et en défaite militaire. Parmi les causes de cette confusion, il y avait le fait que les archers sont 40 parmi les 50 archers sont descendus du mont pour rejoindre, parce qu'ils pensaient que la bataille était terminée. La cavalerie, les 200 cavaliers vont profiter de la situation pour exterminer les 10 derniers cavaliers qui restent sur le mont des archers et pour prendre l'armée en étau. Et ils vont émettre un cri sourd, un grand cri, qui est un signal, en fait un code secret qu'ils avaient prévu avec les idolâtres, au cas où ils arrivent à venir par derrière, ils vont faire un cri pour que les idolâtres le sachent et qu'ils reviennent par devant. Et c'est ce qui va se passer. Donc l'armée des musulmans va être prise en étau. L'étendard des musulmans qui flottait dans le ciel, on ne le voit plus. Pourquoi on ne le voit plus? Parce qu'à ce moment-là, va être tué Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, et c'est lui qui portait l'étendard. L'étendard des idolâtres qui ne flottait pas du tout dans le ciel, puisqu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui prenait l'étendard parmi les Bani Abdiddar et qui défiait en duel les musulmans, il se faisait tuer par les musulmans. Il y en a eu 11 en tout qui ont essayé, et les 11 ont été tués en duel par les musulmans. Et donc l'étendard restait par terre jusqu'à ce que une femme, Imara bintu Alqama al-Harithiya, à ce moment-là, elle vient, quand elle voit que la cavalerie prend étoile, elle vient, elle reprend l'étendard des idolâtres. Et donc tout ça, ça crée la confusion dans l'esprit des musulmans qui entendent ce cri, qui voient plus personne sur le mont des archers, qui voient que finalement ceux qui sont en train de fuir reviennent par devant, mais que derrière la cavalerie arrive à toute vitesse. Leur étendard, ils ne le voient plus, l'étendard des idolâtres, ils le voient. Et surtout, il cherche du regard le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le trouve pas. Et ça, on va expliquer plus tard pourquoi il ne le trouve pas. On va commencer à l'expliquer aujourd'hui. Et en plus, par-dessus tout, il y a la rumeur du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été tué. Il y a même des hommes, en particulier Abdullah ibn Qami'a, et on verra plus tard pourquoi il va être persuadé, il va revenir, il va crier « J'ai tué Mohammed ». Lui, il est sûr de l'avoir tué. Donc, les réactions des musulmans seront différentes. Il va y avoir un groupe de musulmans qui sont minoritaires, qui vont fuir jusqu'à Médine. Il va y avoir un groupe de musulmans qui sont majoritaires, qui vont être perturbés, qui vont avoir un moment où ils ne sauront quoi faire. Certains d'entre eux vont cesser de combattre. D'autres vont aller se réfugier sur la montagne d'Uhud. D'autres vont se mettre sur le côté en levant les bras. Et ensuite, par la suite, ils vont reprendre, retrouver leurs esprits pour rejoindre le plus gros du contingent des musulmans. Et il y a une autre minorité qui, eux, sont l'élite. On avait cité par exemple Thabit ibn al-Dahdah, radiallahu anhu, qui va combattre et lutter jusqu'au bout malgré la rumeur. On a cité également l'exemple d'un compagnon de Médine qui était agonisant, et malgré cela, il va donner l'espoir, galvaniser. Et on a terminé par l'exemple du compagnon Anas ibn Nadr, radiallahu anhu. Donc on ne va pas revenir sur ce qu'on a dit sur Anas ibn Nadr. La seule chose, c'est que ce qu'on n'a pas précisé la semaine dernière à propos d'Anas ibn Nadr, radiallahu anhu, c'est que plusieurs exégèses nous indiquent que c'est à cette occasion-là, et pendant cet événement-là, et entre guillemets, par la cause de ce que Anas ibn Nadr radiallahu anhu a fait, qu'un verset du Coran de Surat al-Ahzab a été révélé. Quel est ce verset? C'est le verset qui dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Et parmi les croyants, il en est qui sont des hommes. Ah, c'est-à-dire tous les croyants ne sont pas des hommes. Certains. Ce n'est pas n'importe qui est un homme. Un homme dans le sens de la virilité. Pas un homme dans le sens de la masculinité. Ça, c'est khlas. Ça, c'est c'est le destin qui choisit. Ce n'est pas toi qui choisis. Voilà qu'il y a un homme dans le sens, tu vas être quelqu'un. Même les femmes peuvent être des hommes dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Même si il y en a qui le font quand même dans l'autre sens, à la kulihal. Donc ce verset, il dit quoi? Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahada Allah 'alayh. Il en est parmi les croyants certains qui sont des hommes. Pourquoi? Allah il donne leur description justement dans ce verset. Min al-mu'minina rijalun sadaqu. Ils ont appliqué, ils ont rendu vrai ma'ahadullah alayh, ce qu'ils ont pris comme engagement auprès d'Allah. Ils ont rendu vrai, réel, c'est-à-dire ils ont accompli, mis en application ce qu'ils ont pris comme engagement auprès d'Allah. Pourquoi c'est que certains exégèses nous disent que ce verset a été révélé au moment où est arrivé Anas ibn Nadr? Parce qu'Anas ibn Nadr, il a combattu jusqu'au bout malgré la rumeur que le professeur Sam aurait été tué. Donc il a rendu réel et il a mis en application ce pourquoi il s'est engagé auprès d'Allah. Et aussi, ça fait très probablement référence à quelque chose qui nous est expliqué dans une narration et dans une version, c'est le fait que Anas ibn Nadr radiallahu anhu, il n'a pas participé à la bataille de Badr. Et il l'a regretté. Et il a dit, si Allah me permet de participer ne serait-ce qu'une seule bataille, où je resterai aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette bataille, eh bien Allah verra ce que je vais faire. Je vais montrer moi qui je suis. C'est un engagement. Et donc à ce moment-là, au moment où tout est perdu, au moment où même on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, c'est fini, lui il dit à Sa'd ibn Mu'adh, Aïna ya Sa'd. Sa'd il s'enfuit, il quitte le champ de bataille. Et lui il croise Sa'd et lui dit, tu vas où? Il lui dit, Inni ajidu riha al-jannati duna Uhud. Tu vas où? C'est de ce côté qu'il faut aller. Moi, je sens le parfum et l'odeur du paradis juste avant Uhud. Juste avant Uhud, c'est-à-dire là où les musulmans, ils ont été pris en étau. Et il va rentrer là-dedans. Et comme on a dit la semaine dernière, c'est sa sœur, Rubayya bint al-Harith, qui va être amené sur le champ de bataille à la fin de la bataille pour tenter de le reconnaître, parce que personne ne l'aura reconnu tellement il aura été mutilé et tellement il aura pris de coups. On va trouver sur lui plus de 80 coups, entre des coups de lame, des coups de lance, des coups de flèche. Non. et elle le reconnaîtra uniquement, selon certaines versions, par une tache de naissance et ou par ses phalanges. Naam. Ala kulli hal, donc ce verset aurait été révélé à cette occasion, et juste pour la petite histoire, Anas ibn Nadr, il fait partie des compagnons de Médine, le Ansar. Ça veut dire qu'il fait partie des compagnons qui ont choisi de donner refuge au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont pas concernés, entre guillemets, ils sont concernés religieusement par ce qui les affronte aux idolâtres de la Mecque, mais ils ne sont pas concernés familialement, tribalement, personnellement parlant, ils n'ont pas d'histoire personnelle avec eux. Alors que les muhajiroun, les compagnons de muhajir, ils ont non seulement un différent religieux, parce que les idolâtres refusent cette religion, ils refusent que les gens puissent accéder à cette religion librement. Et par-dessus tout, ils ont des histoires personnelles avec eux parce qu'ils les ont persécutés. Donc ils sont, un tel m'a persécuté, un tel m'a torturé, un tel... Donc on peut avoir plus de causes pour combattre jusqu'au bout quand on est concerné par ça. Les Ansar, non? Les Ansar, à partir du moment où le professeur Salim est mort, et c'est à lui qu'ils ont prêté serment d'allégeance, et c'est à lui qu'ils ont promis de lui donner le refuge, à partir du moment où il est mort, ils peuvent tous se dire de manière cohérente et logique, c'est fini, le combat prend fin. Le combat prend fin. Eh bien, pas Anas ibn Nadr. Et Anas ibn Nadr, non seulement il fait partie des Ansar, mais il ne fait pas partie de n'importe quelle tribu des Ansar. Il fait partie des Bani Adi ibn Najjar. Et les Bani Najjar, ce sont qui? Ce sont ceux où l'endroit où la chamelle du professeur Asim s'est arrêtée quand le professeur Asim a fait le hijra et que tout le monde voulait l'accueillir chez lui. Et que le professeur Asim lui a dit, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc laissez la chamelle, là où elle s'arrêtera, c'est là où je serai hébergé. Elle va s'arrêter devant chez Abu Ayyub al-Ansari, dans la tribu, à l'intérieur de la tribu des Bani Najjar. Subhanallah. Et la tribu des Bani Najjar, ce n'est pas n'importe qui. On dit, hum akhwal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On dit à leur sujet, ce sont les oncles maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aminatou bint Wahb, c'est une femme de la Mecque. Elle est née à la Mecque, elle a deux parents de la Mecque, des Quraysh. Alors comment ça se fait qu'on dit que ces gens-là, ce sont les oncles maternels? Ça sous-entendrait qu'ils sont les frères de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, ce sont les frères du grand-père au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les frères de la mère du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les frères de la mère du grand-père. C'est qui le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est lui le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdul Muttalib, c'est le fils de qui? De Hashim. Hashim, vous rappelez, on avait déjà parlé de ça. Hashim, c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hashim, ce n'est pas son vrai nom, c'est son surnom, mais tout le monde le connaît sur le nom de Hashim. Souvent, on connaissait les noms à l'époque plus sur leur surnom que sur leur nom. Pourquoi il était appelé Hashim? Hashim, ça veut dire celui qui brise ou qui effrite, qui l'éparpille. Parce que Hashim, il faisait partie de la lignée de ceux qui devaient donner, nourrir les pèlerins à la Mecque. C'était gratuit à l'époque. Ils nourrissaient les pèlerins gratuitement. Et ils abreuvaient de Zemzem gratuitement. Bon, ça va encore, je crois. Zemzem, c'est encore gratuit. Mais pour le reste, pour tout ce qui est hébergement, nourriture, il va falloir payer. Et si c'est l'Umrah, ça va encore. Mais si c'est le Hajj, il va falloir bien payer. Non. Même pour aller au bout du monde en Australie, pendant un mois, ça ne coûtera pas autant. Ala kulli hal. Et pourtant, tu vois, quand tu vois Hajj, tu vois des grandes pancartes qui te disent « Bienvenue ». Duyuf al-Rahman, bienvenue aux invités de al-Rahman, du miséricordieux. Non, on est les invités d'Allah Azzawajal, mais pas de... Parce que quelquefois, on voit aussi des panneaux publicitaires qui nous disent les invités du Khadim al-Haramayn, les invités du gardien des lieux saints. Le gardien des lieux saints, c'est-à-dire le roi d'Arabie Saoudite. Non, on va arrêter là, maintenant on cherche les problèmes. Hashim, ses ancêtres donnaient du pain à manger aux pèlerins. Et lui, il a considéré que le pain, ce n'était pas suffisant. Donc il va mettre en place une nouvelle chose, c'est qu'il va donner du pain avec de la chair, de la viande. Il va leur donner ce qu'on appelle farid. Ce qu'aujourd'hui, alors c'est pas fait sous la même forme qu'avant, mais aujourd'hui c'est ce que les Algériens appellent charchoucha et que les Marocains appellent rfissa. C'est fait avec de la pâte et de la sauce, de la viande. Et bien c'était ça, yani. Sauf que c'est pas, évidemment la recette elle n'était pas tout à fait la même. À la kulli hal, eh bien le Hashim il va faire ça. Et on disait, il y a un poète qui disait وَعَمْرٌ الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ قَوْمٌ بِمَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافٌ. Le poète il disait ça. Amr, c'est un prénom Amr. Amr qui a brisé les bouts de pain, ça c'est normal. Mais il l'a fait pourquoi? Il l'a fait avec tharid, c'est-à-dire il l'a fait en le mélangeant avec de la viande. الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ. Il l'a fait pour son peuple. Qawmun musnitun a'ijafu, un peuple atteint par la disette, la famine et la sécheresse. Il leur a donné à manger mieux et plus à un moment où ils en avaient plus besoin. Non. Pourquoi je parle de Hashim? Je me suis éloigné. Je parle de Hashim parce qu'il est le père de Abdul Muttalib. Hashim, il va se marier à Médine. Il part en voyage où? En Palestine, à Gaza, la ville de Gaza existait déjà à l'époque. C'était une ville connue des grands commerçants. Ils allaient jusqu'à Gaza. Donc Hashim, il part pour un voyage commercial à Gaza, mais il s'arrête à Médine pour s'y marier. Il se marie chez qui? Chez les Bani Najjar. Il se marie chez les Bani Najjar. Donc il passe là sa nuit de noces, et ensuite il dit à son épouse, reste ici, je vais faire mon voyage commercial à Gaza, et en revenant, je passerai te prendre, et on rentrera à la Mecque. Sauf qu'il va mourir à Gaza. Ah, il va mourir à Gaza. Non. Et il va y être enterré. Hashim, l'arrière-grand-père du prophète Hassan. Et donc, la nouvelle de sa mort arrive à la Mecque. Sauf que ce que les Mecquois, ses frères ne savent pas, c'est que, ils savaient qu'ils s'étaient mariés à Médine, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce mariage, quelques mois plus tard, elle va donner naissance. Elle est tombée enceinte par la cause de ce mariage. Et ça, ils ne le savent pas. Et elle va donner naissance au fils de Hashim, qui est le grand-père du professeur Sama, Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, son vrai nom, c'est Shaiba. Ce n'est pas Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est son surnom. Mais personne ne sait que le grand-père du professeur Sama, enfin personne, en tout cas peu de gens savent que le grand-père du professeur Sama, il s'appelle Shaiba. La plupart savent qu'il s'appelle Abdul Muttalib. Mais c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Shaiba. Et ici, pourquoi il a été surnommé comme ça? Justement, parce que quand ses frères, les frères de Hashim vont savoir que leur frère, il a un enfant à la Mecque, ils vont le savoir au bout de quelques années, ils vont le réclamer. Ils vont dire à sa mère, il faut qu'il vive à la Mecque parce que son père est mort. Il n'a laissé aucun descendant. Et donc, on a besoin que notre frère, il laisse un descendant à la Mecque, et on va nous s'en occuper, et il ne manquera de rien. Et donc, comme à Médine, la vie, elle est difficile à cette époque-là, elle va accepter. Et surtout que la tribu des Quraysh était connue pour être la tribu maître parmi toutes les tribus arabes. Donc, faire en sorte que son fils soit l'aîné et le seul de Hashim, c'était important. Donc elle l'envoie. Et donc, c'est qui? C'est le frère de Hashim qui s'appelle Muttalib qui va le ramener. Et il va le mettre derrière lui, sur sa monture. Et quand il arrive à la Mecque, il est sur sa monture. Et derrière lui, il y a qui? Il y a Shaiba, celui qui est surnommé Abdul Muttalib. Et les gens, quand ils vont le voir, ils ne connaissent pas cette histoire, qu'il y a eu un enfant et tout. Ils voient le Muttalib qui revient d'un long voyage, qui est parti à Médine. Et revient avec un enfant. Et généralement, quand les gens faisaient ça, ils revenaient d'un voyage. Généralement, c'était un voyage commercial. Et s'ils revenaient avec quelqu'un, un enfant ou un jeune, c'était souvent des esclaves qu'on avait achetés au marché. Donc ils ont dit, Abdul Muttalib, l'esclave de Muttalib. Il a acheté un esclave. C'est qui lui? C'est la rumeur, elle s'est propagée. Et les gens, ils en ont fait quelque chose de vrai. Abdul Muttalib. Ils y ont cru, c'est l'esclave de Muttalib. Et ensuite, Il avait beau leur expliquer, mais non, c'est mon neveu, c'est le fils de mon frère Hashim qui est mort, etc. Il avait beau leur expliquer, ils ont dit, bon, khalas, mais le surnom y est resté. Le surnom est resté, et c'est pour ça qu'on le surnomme Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le surnomme l'esclave de Muttalib, alors qu'en réalité, il est le neveu de Muttalib. Non. Ala kulli hal. Pourquoi je parlais de ça? Quel rapport avec Uhud? Non. Ala kulli hal. Aïwa, parce que Abdul Muttalib s'est marié, ou c'est le fils d'une femme des Bani Najjar. Et les Bani Najjar, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être hébergé. C'est eux qui vont accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un tel point, on avait raconté pendant l'émigration, il y avait les petites filles de Médine qui guettaient quel moment de la journée le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir de chez Abu Ayyub al-Ansari. Dès qu'il sortait, elles chantonnaient des poèmes pour montrer tout l'amour qu'elles avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment elles étaient heureuses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Et elles disaient en particulier un vers qui était connu, elles récitaient ce vers où elles disaient « Nahnu jawari min bani najari » Ya habbada Muhammadun min jari. Nous sommes des filles de Bani Najjar. Nahnu jawari min Bani Najjar. Ya habbada Muhammadun min jari. Et quelle est grande notre joie de savoir que Muhammad est notre voisin. Ajib. Naam. Ala kulli hal. Donc ça, c'est tout ce qu'elle va dire à propos d'Anas ibn al-Nadr. Aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser à l'autre événement marquant et tragique de la bataille de Uhud. C'est le fait que le prophète Hassim va être gravement blessé, qu'il va être blessé à plusieurs reprises, de manière différente, et à plusieurs endroits du corps, et que si Allah Azza wa Jal ne l'avait pas protégé, toutes ces blessures auraient pu conduire à sa mort. Et à propos de ces blessures, de cet événement où on parle de Isabatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-juruh, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été atteint par des blessures, on peut se poser 5 questions principales pour en savoir le plus possible sur cet événement tragique. Première question, on trouve cet événement dans les livres qui racontent l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ce qui nous intéresse c'est de savoir est-ce que c'est quelque chose qui a été authentifié, est-ce que c'est vraiment arrivé ou c'est juste quelque chose qu'on raconte et on ne sait pas si c'est authentique ou faible dans les chaînes de narration. Donc, première question, est-ce que c'est vraiment arrivé, c'est-à-dire est-ce que les narrations sont authentifiées. Deuxième question, quel type de blessure le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi? Il a été blessé où et par quel type de blessure? Troisième question, comment il s'est blessé? Par quelles armes? Est-ce que ce sont des armes ou c'est autre chose qui l'a blessé? Quatrième question, quelle a été la réaction du prophète Hassan lorsqu'il a été blessé? Il a été directement blessé, physiquement blessé. Quelle a été sa réaction? Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et cinquième question, les compagnons qui sont là, qui sont autour, qui le voient être blessé, comment ils ont réagi? En répondant à ces 5 questions, on aura fait le tour de cet événement tragique qui sont le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé. On va commencer aujourd'hui par la première question. Et peut-être qu'on aura le temps de faire la deuxième question. La première question, c'est quoi? La première question, c'est est-ce que cet événement a été authentifié? Cet événement, il est raconté dans tous les livres qui nous racontent l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour les historiens, c'est quelque chose d'avéré. Mais pour nous, on a déjà expliqué à plusieurs reprises que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce qu'on va voir écrit dans plein de livres, même des dizaines de livres, que c'est vrai. Ça vient nous rassurer, nous conforter, mais ce n'est pas suffisant. Dans la science du hadith, on considère que la chose, elle doit être authentifiée. Le texte doit être authentifié. Eh bien, c'est quelque chose qui est raconté dans énormément de narrations et dans énormément de versions. Certaines authentiques et d'autres moins authentiques. Certaines avec des détails, d'autres avec moins de détails. Et on va donner quelques exemples. Il y a une version qu'on appelle une version Muttafaq alayha. Muttafaq alayh, c'est quoi dans la science du hadith? C'est, si on traduit littéralement, le Muttafaq alayh. Ils sont d'accord sur ça. C'est-à-dire, ils sont d'accord pour le rendre authentique. De qui on parle ? On parle de le Bukhari Muslim. Quand on dit le muttafaq alayhi, ça veut dire tous les deux, ils ont été d'accord pour, mettre cette narration, ce hadith, dans leur livre. Donc ils ont été d'accord pour le rendre authentique. Et il y a des versions, il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs qui parlent de cet événement, du fait que le professeur Hassan a été gravement blessé, et qui est ce qu'on appelle muttafaq alayhi, c'est-à-dire authentifié à la fois par le Bukhari et Muslim. Mais quand on dit qu'ils sont d'accord pour l'authentifier, ça, on ne peut dire que c'est muttafaq alayhi que lorsque la version elle est identique, tant dans la chaîne de transmission que dans les termes utilisés dans le texte. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe quel texte, parce que tu peux trouver un texte dans le Bukhari qui raconte un événement et un autre texte chez Muslim qui raconte le même événement mais avec des mots différents, avec une chaîne de transmission différente, et tous les deux sont authentiques. Mais on ne dira pas forcément pour ces deux-là muttafaq alayhi, parce que les chaînes de transmission sont différentes, même si elles sont toutes les deux authentiques, et on les accepte. Et les termes utilisés sont différents. Quand on dit muttafaq alayhi, ça veut dire les termes utilisés sont identiques et la chaîne de transmission est la même. Et Bukhari a fait son enquête et cette narration lui est parvenue, il l'a rendue authentique. Muslim a fait son enquête, cette narration lui est parvenue et il l'a rendue authentique. Et on en a des versions qui sont muttafaq alayhi, qui nous parlent de cet événement-là. On va citer un exemple. Par exemple, il y a un texte qui nous dit « Ishtadda ghadabullahi azza wa jal li qawmin fa'alu bi rasulillahi sallam wa huwa yushiru ila ruba'iyatihi » Donc le texte nous dit que le prophète sallam va dire le jour de Uhud, il va dire « Ishtadda ghadabullahi azza wa jal » La colère d'Allah azza wa jal s'amplifie, elle augmente. Contre qui ? Contre des gens qui ont osé faire ceci. Et il a montré son incisive latérale du côté droit et en bas. Parce que ça, on le sait par d'autres versions que c'était... cette version nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il a montré son incisive. Mais nous, on sait par d'autres versions que c'est laquelle ? C'est celle du bas et du côté droit. L'incisive. Pourquoi ? Parce qu'à Uhud, à cause d'une de ses blessures, l'incisive, elle va être cassée. Il va perdre l'incisive. Ah. Donc déjà, on a cette version qui est authentifiée à la fois par le Bukhari et le Muslim. Le professeur Sam dit, la colère d'Allah, elle est grande contre ceux qui ont osé faire cela et il montre la dent qui lui manque. L'incisive. On lui a brisé sa dent. Donc c'est pas rien, Yannick. C'est des coups violents qu'il a reçus pour faire tomber une dent. Il faut y aller. Ensuite, on peut citer également une version qu'il y a dans l'authentique de l'Bukhari tout seul. Et il y en a plein, pas qu'une seule. Il y en a beaucoup des versions qui sont juste chez l'Bukhari qui nous parlent de cet événement, mais on ne va pas toutes les citer. On a par exemple... une qui va dans le même sens que celle qu'on vient de citer, c'est celle où le professeur sallam dit « Ishtadda ghadabullahi azza wa jal ala man qatalahu nabiyuhum fi sabilillah. Ala man qatalahu nabiyuhum fi sabilillah. Wa ishtadda ghadabullahi azza wa jal ala qawmin dammaw wajha nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam. » Ici, dans cette version qui est rapportée, authentifiée par le Bukhari, le professeur Hassan dit « La colère d'Allah est grande. La colère d'Allah augmente. Elle est amplifiée contre qui ? Contre celui que le professeur Hassan a dû tuer. » Ah, mais ça, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on y viendra plus tard. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième partie de cette version. C'est là où le professeur Hassan dit « Ishtadda ghadabu » Allah Azza wa Jal, la colère d'Allah est grande. Ala qawmin dammaw wajha nabiyillahi sallallahu alayhi wa sallam. La colère d'Allah est grande contre des gens qui ont osé ensanglanter le visage de leur prophète, du prophète d'Allah. Donc il y a une histoire de sang. Après on va venir sur la deuxième question. quels sont les types de blessures? On va toutes les citer. Là, pour l'instant, on s'intéresse juste à la première question. Est-ce que ça a été authentifié? Donc, on l'a dans les deux authentiques. On l'a chez le Bukhari avec cette version qu'on vient de citer. Toujours chez le Bukhari, parmi les exemples qu'on peut donner, selon Anas, radiyallahu anhu, شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Cette version qui est authentifiée par le Bukhari, elle nous dit, selon le compagnon Anas ibn Malik رضي الله عنه, il dit Shujja Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Shujja. Shujja, ça veut dire quoi? C'est le verbe shajja ya shujju. C'est le verbe qui veut dire balafré. Et les Arabes utilisent le terme shujja quand on dit shujja Nabi, le prophète a été balafré. En fait, ça peut vouloir dire balafré. En français, balafré, c'est pour les cicatrices qu'on reçoit, les blessures qu'on reçoit au visage. Mais en arabe, on peut l'utiliser pour les coups reçus au visage ou pour les coups reçus à la tête. Quand on reçoit un coup, une blessure à la tête ou au visage, on utilise ce terme, shujja. On ne va pas l'utiliser pour le bras, pour la jambe, si on a une blessure au reste du corps. Mais quand c'est sur la tête ou sur le visage, et il se trouve, comme on le verra plus tard, que le professeur Asma a reçu les deux, à la tête et au visage. Donc cette narration, elle nous dit, qui a été authentifiée par le Bukhari, shujja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le professeur Asma a reçu un coup. Visage à la tête. Et il a dit le jour de, quand il a reçu ce coup, le jour de Uhud, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ نَبِيَهُمْ. Comment un peuple qui a osé porter des coups, blesser leur prophète à la tête et au visage, comment ils peuvent avoir la réussite après ça? Comment ils peuvent avoir le succès? Mais Allah Azza wa Jal va lui révéler à cette occasion un verset, verset 128 de sourate Ali Imran, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Laysa laka min al-amri shay. Laysa laka min al-amri shay. Ou yatouba alayhim, ou yu'adibahum, fa innahum zalim. » Ça ne fait pas partie de ton décret à toi, de ton affaire à toi, de savoir, entre guillemets, s'ils vont avoir la réussite ou pas. C'est ça que le verset veut dire. C'est-à-dire, malgré tout, puisque dans le verset dit quoi? Ou yatouba alayhum. Peut-être que Allah va leur pardonner. Ou yu'adhibahum. Ou peut-être qu'il va les châtier pour ça. Mais il ne faut pas fermer tout espoir. Yann. Mais ça, on va revenir en détail, puisque ça va faire partie de la question qu'on va poser. Quelle a été la réaction du professeur sallam? Et on va répondre à ça. Mais en tout cas, ce verset aurait été révélé à cette occasion-là. Ou yu'adhibahum fa innahum zalimun. Soit Allah va leur pardonner, soit Allah va les châtier, parce qu'ils font partie des injustes. Mais nous, ce qui nous intéresse dans cette version, c'est que le compagnon Anas dit « Shujja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam » Le professeur Sam a reçu un coup, soit au visage, soit à la tête. « Faqala » Et il a dit « Kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum » Comment un peuple qui a frappé au visage ou à la tête leur prophète, ils peuvent avoir la réussite, ils peuvent avoir le succès. Comment? Ensuite, on peut également citer, on a dit que, donc on a cité un exemple de version qui est muttafaq alayh, à la fois chez le Bukhari et Muslim. On a cité deux exemples qui est uniquement chez le Bukhari. On peut citer des exemples qui sont uniquement chez Muslim. Et toujours rapporté par le compagnon Anas, an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, anna al-Nabiyya Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. قال يوم أحد وهو يسلت الدمع عن وجهه وهو يسلت الدمع عن وجهه كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه. Donc dans la version de Muslim, selon le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le professeur sallam a dit le jour de Uhud, comment un peuple peut avoir le succès et la réussite alors qu'ils ont balafré, ils ont porté un coup au visage ou à la ici ça va être plus la tête parce que justement le visage, je vais en parler après. Comment un peuple pourra avoir le succès et la réussite alors qu'ils ont porté un coup à la tête du prophète, de leur prophète? وَكَسَرُوا رُبَعِيَتَهُ Et ils ont brisé, cassé son incisive. وَأَدْمَوْ وَجْهَهُ Et ils ont ensanglanté son visage. Ils ont ensanglanté son visage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, toutes ces versions, elles nous prouvent quoi? Elles nous prouvent tout d'abord que c'est quelque chose qui a été largement authentifié. C'est quelque chose qui est non seulement dans les livres d'histoire, mais qui a été authentifié par les savants du hadith, donc c'est quelque chose qui est arrivé. Et c'est gravissime que ce soit arrivé. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, s'imaginer que dans cet événement, dans cette occasion, des gens ont osé lui porter des coups graves et que leur intention c'était d'abord de le tuer. Certes, ils n'ont pas réussi à le tuer, mais ils ont réussi à l'ensanglanter, à lui faire mal. Le professeur Sim a souffert longtemps de ses blessures, comme on va le voir. Et aussi, ça nous montre que le professeur Sim était au cœur de la bataille. Le prophète Hassan ne fait pas partie des chefs qui sont cachés derrière leurs PC, derrière leurs ordinateurs, et qui de loin, avec des télécommandes, envoient des bombes par-ci ou par-là. Ala kulli hal, le prophète Hassan a reçu ses graves blessures. Et donc, cet événement, on a dit, il est authentique. Ça répond à la première question. A-t-il été authentifié? La deuxième question, c'est quels sont les types de blessures que le professeur Sim a eues? Alors, comme je vous ai dit, on a énormément de versions qui parlent de tout ça. Si on commence à citer toutes les versions, on n'aura jamais fini. On devra faire une nouvelle série exprès sur ces causes, juste sur ce cours-là, qui va être intitulée les blessures que le professeur Sim a reçues à Uhud. Nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous résumer. J'ai pris de toutes les versions différentes qui existent, tous les détails qui sont donnés, et donc on va résumer toutes les blessures qu'il a eues. Tout d'abord, le professeur Hassan a été ensanglanté, en particulier au visage. On avait dit qu'il y a une version qui dit « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ أَدْمَوْ وَجْهَهُ » Comment un peuple qui a ensanglanté son visage peut avoir le succès. Dans une autre version, اشتد غضب الله عز وجل على قوم دموا وجه نبيهم وجه نبي الله. La colère d'Allah est grande contre ceux qui ont ensanglanté le visage de leur prophète. Donc on a à la fois une histoire de sang et une histoire de visage. Non. Et le sang, il coulait يعني, bien comme il faut. Il y en a. On a une version qui nous dit qu'un ayam sahud dama ala wajhi. Le professeur Hassan ne cessait d'essuyer le sang qu'il avait sur son visage. Dans une autre, wa huwa yaslutu dama an wajhi. Et il essayait de faire partir le sang qu'il y avait sur son visage. Ça ne cessait de couler. Il essuyait et ça revenait. Et on a même dans une version chez l'imam muslim, le fait que par la suite, et ça on va le voir en détail plus tard, lorsqu'il va rentrer, donc il va faire ce qu'il peut pour bloquer, entre guillemets, là où le sang coule, la blessure, la cicatriser. Mais ensuite, il va être convenablement re-soigné, en particulier par sa fille Fatima et Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il va rentrer à Médine. Et on nous raconte dans cette version que quand elle va réouvrir un petit peu la cicatrice, justement pour la nettoyer et verser l'eau, le sang ne veut pas cesser de couler. Non. Et ce qui est cité également, quelles sont les parties du visage? Le professeur a été blessé au casque. On nous dit Hushimatil baydatu fawqa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le bayda, ici c'est pour parler de l'khoudha, ce qu'on appelle le casque. Le casque du professeur a été brisé sur sa tête. il a été brisé sur sa tête. Il a été déformé, cassé sur sa tête. Il a reçu un gros coup sur la tête qui lui a brisé son casque et qui a causé quoi ? Il avait deux pointes à son casque du côté des joues et une des deux et les deux pointes à la fois sont entrées sur ce qu'on appelle l'ouajna, juste en dessous des cernes, entre la joue et les cernes. Et c'est ce qui va causer ces blessures-là qui vont être ensanglantées, non, qui vont laisser couler du sang. Également, on en a parlé dans les versions qu'on a citées tout à l'heure, l'incisive latérale du professeur Sam. Ruba'iyatu, ruba'iyat en arabe. Ruba'iyat pour une, ruba'iyat pour plusieurs, c'est les incisives. Mais en arabe, ruba'iyat, on l'utilise pour l'incisive latérale, parce qu'en français, les deux dents de devant et les deux dents d'à côté, on les appelle toutes les incisives. On ne se casse pas la tête. Sauf que pour les deux de devant, on dit les incisives centrales, et les deux à côté, on dit les incisives latérales. Alors qu'en arabe, les deux de devant, on appelle ça, si c'est une, on dit athaniya, si c'est plusieurs, on dit thanaya. Il y a un mot exprès pour les deux dents de devant, qu'elles soient en bas ou en haut. Et ensuite, les deux dents d'à côté, qu'elles soient en bas ou en haut, on appelle ça arubariyat. Les incisives, ce qu'on appelle en français les incisives latérales. Et ensuite, à côté, qu'est-ce qui vient ? Les dents pointues, ce qu'on appelle en français les canines. Et en arabe, l'aniyal. Et ensuite, en français, il y a les prémolaires, ou les prémolaires, et ensuite les molaires, et ensuite les dents de sagesse. En arabe, c'est dawahik pour les prémolaires. Dawahik qui vient du terme dahika. Parce que quand quelqu'un rit aux éclats, on arrive jusqu'à voir ses prémolaires. On ne voit pas après, parce qu'il y a la lèvre qui cache. Non, la joue qui cache. Mais sinon, quelqu'un qui va bien ouvrir la bouche et bien rire, on peut aller voir jusqu'à sa prémolaire. C'est pour ça qu'on appelle ça dawahik, qui vient du verbe dahika, rigoler. Et ensuite, il y a el-arha, en arabe. Les molaires, c'est ce qu'on appelle arha. On appelle aussi nawajid. On appelle aussi surtout al-arha, qui vient du mot raha. Raha, on l'utilise pour ce qui vient mixer. Le moulin, ça vient mixer, on appelle ça raha. Un mixeur, on va appeler ça raha. Mais c'est ce qu'ils font les molaires, là, non ? Al-tahamna, le mix. Non. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, on peut appeler ça dirs al-aql, la dent de sagesse. Et que les Arabes d'avant appelaient nawajiv. Non. Ala kulli hal, c'est pas un cours d'anatomie, à fois. Donc, on a dit l'incisive latérale du côté bas, du côté droit, du professeur Hassan va être brisée. Et sa lèvre va être enflée, et elle, parce que c'est elle aussi qui va prendre un coup à cause de cette dent qui a été brisée. Donc, le professeur Hassan, on suppose qu'il a reçu soit plusieurs coups, soit un grand coup qui a cassé le casque, qui a fait rentrer les pointes de son casque dans la joue, et que le coup est parti jusqu'à la lèvre, et ça a brisé sa dent. Donc, ça nous laisse supposer la violence du coup que le professeur Hassan a reçu. Et aussi, il y a le genou du professeur Hassan. Et ça, c'est moins répandu dans les versions, mais on le retrouve dans une version. Le professeur Hassan s'est fait une blessure au genou en tombant. Je ne vais pas vous donner les détails parce que on va y répondre juste après quand on va parler de la troisième question qui est comment, par quels moyens, par quelles armes le professeur Hassim s'est fait ses blessures. Certaines, il se les a faites peut-être en tombant, d'autres en recevant directement des coups de ses ennemis. Donc le professeur Hassim va se faire une blessure aussi au genou. Et également, on a une version qui nous dit que le professeur Hassim va recevoir un coup d'épée sur son épaule. Mais le professeur Salim avait mis, si vous vous rappelez, on l'avait dit au tout début, lorsqu'on avait le début de la bataille de Uhud, le professeur Salim avait mis deux armures. Et donc ce coup d'épée, ce coup de lame qu'il va recevoir sur l'épaule, il va en être protégé, plus ou moins, relativement, parce qu'il a mis deux armures. Puisqu'une des deux armures va céder avec ce coup qu'il a reçu, mais il y a une deuxième armure après qui le protège. Mais malgré tout, le prophète sallam va souffrir pendant un mois, dit la version, du coup qu'il a reçu sur son épaule. Pendant un mois, il continuera de sentir la douleur qui a été causée par le coup d'épée qu'il reçoit sur son épaule. Alayhi salatu wassalam. Non. Donc ça répond à la question: quel type de blessure le professeur a subi? On a dit à la tête, puisque son casque a été brisé sur sa tête. Au visage, il y a eu beaucoup de sang. Sa partie entre la joue et la cerne a été transpercée et balafrée. Sa lèvre a été blessée. Son incisive latérale a été brisée. Son épaule, il reçoit un gros coup à son épaule qui va lui faire mal pendant un certain temps, et son genou où il va être blessé. Ça, ce sont toutes les blessures que le professeur Sam a reçues le jour de Uhud, et c'est pas des blessures qu'il va recevoir pendant tout le temps de la bataille, une blessure par-ci, ensuite une blessure par-là. C'est pendant quelques instants où il va y avoir, comme on va l'expliquer plus tard, un acharnement des idolâtres sur le professeur Sam pour être sûr de le tuer. Pendant quelques instants, il va recevoir tout ça. Et il va recevoir... Donc là, on arrive à la troisième question. Par quel coup, par quelle cause il reçoit ses blessures? Eh bien, tout d'abord, on nous dit que le professeur Salam va tomber. Quand l'armée des musulmans va être prise en étau, le professeur Salam va tomber dans un trou. Parce que on a plusieurs versions qui nous expliquent que Abu Amir al-Fasiq, vous vous rappelez qui est Abu Amir al-Fasiq? C'était quelqu'un de Médine qui, lorsque le professeur sallam arrive à Médine, il va trahir le professeur sallam, il va partir à Médine et il va déclarer ouvertement son hostilité contre le professeur sallam, il va vivre à la Mecque avec les idolâtres. Et il va leur dire: moi, je suis avec vous et je suis contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira, ça c'est après la bataille de Badr qu'il va aller, et il dira: lors de votre revanche, vous verrez, je parlerai aux miens, aux Ansar, aux compagnons de Médine, et je les convaincrai de ne pas combattre contre vous. Et Abu Sufyan, juste avant le début de la bataille, va faire appel à Abu Amr al-Fasiq, il va lui dire: alors, qu'est-ce que tu nous avais promis? Va leur parler. Et quand il va s'approcher, il va leur dire: Ya ma'ashar al-Ansar, ou vous les Ansar, les compagnons de Médine. Et on va lui répondre quoi? Ils vont lui répondre quoi? Ils vont lui dire, il va dire: Ya ma'ashar al-Ansar, est-ce que vous me reconnaissez? Est-ce que vous m'avez reconnu? Ils vont dire: Na'am, anta Abu Amr al-Fasiq. Tu es Abu Amr al-Fasiq, le débauché, le corrompu, le traître. Alors qu'avant, il était surnommé Abu Amr al-Rahib, Abu Amr le moine. Une façon de montrer qu'il était quelqu'un d'un bon comportement, etc. Et là, comment ils l'auraient surnommé? Ils l'auraient surnommé Al-Fasir, le corrompu. Donc quand il va entendre que maintenant il le surnomme Al-Fasir, il va comprendre que ça ne sert à rien de leur parler. Il va dire à Abu Sufyan: laqad asaba qawmi min ba'di shar. Il est arrivé un mal à mon peuple après moi. Khlas, on ne peut plus rien tirer d'eux. Et Abu Amr Al-Fasir, avant l'arrivée des armées, il va creuser des trous sur l'endroit qui a l'air d'être ce qui va se transformer en champ de bataille. Quand il voit les positions des deux armées, il creuse discrètement des trous qu'ensuite il rebouche, mais qui sont fragiles, il suffit de marcher dessus pour tomber. Pourquoi? Parce qu'il veut faire trébucher les musulmans. C'est des pièges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber, au moment de la prise d'étau, il va tomber dans l'un de ces trous. Ce qui explique aussi pourquoi le professeur Hassan n'était plus vu. Comme on a dit, il y a une des choses qui va causer la confusion dans la tête des musulmans, c'est qu'ils vont entendre que le professeur Hassan est mort, et quand ils le cherchent de vue, auparavant ils le voyaient, là ils ne le voient plus. Parce qu'il y a du monde, et en plus, il a trébuché dans un trou, dans un des trous qui a été creusé par Abu Amir al-Fasiq. Et donc, la première, pour répondre à la question par quel moyen il a été blessé, et ça c'est probablement la blessure au genou, c'est qu'il est tombé dans un des trous qui a été creusé en guise de piège par Abu Amir al-Fasiq. Ensuite, on sait également que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se retrouver dans ce trou et qu'il y aura juste quelques compagnons, on va voir qui et combien, ça on verra plus tard, qui vont le protéger, qui vont être autour de lui. Lorsque le prophète va se retrouver là et que certains vont le voir et vont le reconnaître, ils vont s'acharner sur ce trou, sur l'endroit où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un certain nombre de compagnons, comme on le verra, vont le défendre corps et âme, jusqu'au bout. Des dizaines et des dizaines de flèches. Les gens ne regardent plus, les idolâtres ne regardent plus, ils savent que c'est là qu'il faut, ils lancent tout ce qu'ils trouvent. Des flèches. Quand ils n'ont plus de flèches, ils balancent ce qu'ils ont. Les épées, les lances. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent être sûrs de se débarrasser du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend ça, on s'est dit, les blessures qu'on a citées, c'est grave. Ça nous fait mal au cœur d'entendre toutes les blessures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées. Mais quand on entend tout ce qu'ils ont balancé dans cet endroit-là, on se dit, normalement, les blessures, elle a été protégée d'abord par Allah azza wa jalla et ensuite par la cause des compagnons, comme on le verra par la suite. Donc les flèches. Même si aucune flèche ne l'atteindra par la cause des compagnons, comme on le verra plus tard. Les pierres, dans une version d'Ibn Ishaq, on nous dit « Dutha alayhi bil hijara ». Dutha, le verbe « dutha », ça veut dire « c'est une pluie de pierres qui va tomber sur lui ». Parce que quand comme ils ne trouvent plus rien après, quand ils ont lancé leurs flèches, ils ont lancé leurs épées, ils prennent même les pierres et ils les balancent. Et c'est peut-être une pierre. C'est une hypothèse, une grosse pierre que le professeur Sam a peut-être reçue sur la tête, qui a déformé, qui a cassé son casque, et qui l'a tellement déformé que les pointes de son casque ont transpercé ses joues. Et ensuite, il a reçu également directement des coups d'épée. Certains ont réussi à lui mettre directement des coups d'épée. Certains ont réussi à lui mettre des coups d'épée, non, directement. Et donc, et ça peut être aussi une autre hypothèse pour le casque, ou même pour le coup que le professeur Sam a reçu ici, peut-être que le casque ici, avec la pointe, l'a protégé, et c'est ce qui a fait rentrer la pointe dans sa joue, plus l'incisive qui a été touchée, et la lèvre qui a été touchée par l'épée. Ça, c'est possible aussi. Allahu a'lam. Ala kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être touché donc par toutes ses blessures et par tous ses moyens. Et il y a l'épée. Et l'épée, on peut aller loin et citer une version qui a été citée par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans son ouvrage Fath al-Bari. Il va jusqu'à dire Duriba wajhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma idhin bis-sayfi 70 marra. وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهَا كُلَّهَا. Ce jour-là, cette version nous dit, ce jour-là, le visage du professeur sallam a reçu 70 coups d'épée. Alors, c'est pas possible. Il serait mort. On va y venir. Calmez-vous. Ce jour-là, le professeur sallam a reçu 70 coups d'épée. وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّهَا كُلَّهَا. Mais Allah l'a protégé de tout le mal qu'auraient pu faire ces coups d'épée. Cette narration, elle n'est pas authentique. Elle est mursel. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est interrompue au niveau des sahaba. Elle s'arrête au niveau du tabi'i. Donc il y a une interruption dans la chaîne de transmission qui ne nous permet pas de l'authentifier. Mais Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un grand muhaddith, il sait qu'elle est mursel et pourtant il dit « mursalun qawi ». C'est-à-dire qu'elle dit « elle est mursel ». Mais la chaîne de transmission, elle est forte. C'est-à-dire que sa chaîne de transmission existante, elle est authentique, elle est forte, mais il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose pour la rendre authentique. Donc, il veut dire quoi ? Il veut dire qu'elle est presque authentique. Ça, c'est la première chose. Mais il rajoute quelque chose. Il dit « وَالْمُرَادُ بِالسَّبْعِينَ مَرَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوْ للمبالغه على الكثره. Quand la narration elle dit qu'il a reçu 70 coups d'épée, c'est soit que ça veut dire qu'il en avait reçu 70, c'est la réalité, ou soit c'est une façon de dire qu'il en a reçu beaucoup. Et certains, ils pourraient se dire, mais attends, comment ça? Si tu veux dire qu'il en a reçu beaucoup, tu dis, il a reçu beaucoup de coups d'épée. Pourquoi tu dis 70? Si tu dis 70, c'est que tu les as comptés ou que quelqu'un les a comptés. Bref, c'est qu'on sait qu'il y en a 70 ou au moins à peu près 70. Yallah. Pourquoi tu vas utiliser le chiffre 70? Eh bien, c'est une expression en arabe. Le terme 70, il peut vouloir dire vraiment 70, le chiffre, le nombre, ou soit il veut dire beaucoup. Comme quand en français tu dis, ça fait mille et une fois que je te le dis, mais toi tu veux rien écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te l'ai dit mille et une fois, vraiment très exactement, j'ai compté combien de fois je te l'ai dit, et je te l'ai dit mille et un fois, et une fois? Non. Tout le monde comprend que c'est une expression pour dire, je te l'ai dit plein de fois. Eh bien, le terme sabarine, il peut être utilisé dans ce sens en arabe. C'est pour ça que souvent, il y a des divergences entre les savants, même sur certains versets du Coran. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Istaghfir lahum » ou « La tastaghfir lahum »« In tastaghfir lahum sabarina marra »« Fala yaghfir Allahu lahum » Allah Azza wa Jal dit « tu peux demander pardon à Allah pour eux » ou « Ne pas leur demander pardon » Tu peux même leur demander pardon à Allah pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. En parlant de ceux qui meurent en état d'idolâtrie. Ils refusent de se repentir de l'idolâtrie. Allah, il dit, tu peux demander pardon à Allah. Ou ne pas leur demander pardon. Ça revient au même. Et tu peux même leur demander pardon 70 fois. Les savants ici, ils disent le 70 ici, c'est pas pour dire le nom. Vraiment, en vrai 70. Comme l'imam Ibn Ashur ou l'imam Zamakhshari, eux ils disent quoi? Ils disent ici, c'est pour dire, c'est une expression arabe pour dire beaucoup de fois. On le retrouve aussi dans le verset où Allah Azza wa Jal dit وَاخْتَارَ مُوسَى سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا. Lorsqu'ils vont adorer le veau, en l'absence de Moussa, que Moussa va revenir, et qu'Allah Azza wa Jal, et qu'ils vont demander pardon par la suite, je vous passe les détails, le prophète Moussa, Allah Azza wa Jal lui donne rendez-vous pour qu'il ramène des représentants, des porte-paroles de son peuple. Et il choisit combien? 70 rajulan li miqatina. Allah Azza wa Jal dit, Moussa a choisi 70 personnes pour la rencontre, pour le rendez-vous. Ah. Et bien ici, ça va, ils divergent. Est-ce que 70, ça veut dire qu'il en a vraiment choisi 70? Il les a comptés 1, 2, 3 jusqu'à 70? Ou alors 70, c'est pour dire qu'il en avait choisi beaucoup, il ne s'est pas contenté de quelques personnes. Aïwa. Ou aussi dans une sourate que la plupart d'entre nous on connaît. J'ai cité les sourates qui sont un petit peu plus longues. Mais dans les sourates moyennes, on a par exemple dans sourate Al-Haqqa, ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه. En parlant des gens de l'enfer, ثم الجحيم صلوا خذوه فغلوه. Prenez-le et enchaînez-le. Et amenez-le à sa destination, le jahim, la fournaise, l'enfer. Et ensuite, dans une chaîne dans laquelle il y a, dans une chaîne qui fait 70 coudées, attachez-le, ligotez-le dedans. Et ici, les savants, quand ils font le tafsir, ils disent, est-ce que 70 coudées, ça veut dire qu'elle faisait vraiment 70 coudées, ou c'est pour dire qu'elle était longue, cette chaîne? Ah. Et lorsqu'on s'intéresse à ce nombre 70, même dans la poésie, avant que l'islam arrive, on se rend compte que c'est vrai, c'était une expression, le terme 70, pour dire beaucoup. Par exemple, on le retrouve dans des poèmes comme celui de Waraqa ibn Nawfal. Vous vous rappelez de Waraqa ibn Nawfal? C'est le cousin de Khadija radiallahu anha, le premier homme que le prophète est parti voir pour lui raconter ce qui s'était passé dans la grotte, et il va lui dire, tu es le dernier des prophètes. Waraqa ibn Nawfal, dans un de ses poèmes, il dit وَقَدْ تُدْرِكُ الْإِنسَانَ رَحْمَةُ رَبِّ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ سَبْعُونَ وَادِيًا. La miséricorde de Dieu peut atteindre l'individu quand bien même il serait sous terre et qu'entre lui et la surface du sol, il y a 70 vallées, 70 rivières, 70 vallées qui le séparent de la surface du sol. Et bien même comme ça, la miséricorde d'Allah, elle peut l'atteindre. Est-ce que ça veut dire dans son poème qu'il veut vraiment dire 70 vallées, ou il veut dire qu'il est dans une profondeur très profonde, très éloignée, et malgré ça, quelle que soit ta distance, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, elle peut t'atteindre. Eh bien, c'était ça que ça voulait dire. C'est pour dire c'est très loin. Même si tu es très loin, la miséricorde d'Allah, elle peut t'atteindre. Et aussi, on a Amtalat ibn Shaddad, dont on a déjà parlé, qui dit dans un de ses poèmes, quand il s'adresse à celle dont il veut, avec laquelle il veut se marier, mais que sa tribu refuse, parce qu'il est à la fois le fils d'une esclave, mais aussi d'un notable, qui est chef de sa tribu. Il s'est marié avec une esclave, ou en tout cas il avait cette esclave-là, et il a eu Antara, son fils Antara, avec cette esclave. Donc il était considéré comme un fils d'esclave, alors qu'il avait du sang de ce notable. Et on refusait de le reconnaître à sa juste valeur. Mais c'était un valeureux guerrier. Et donc à chaque fois qu'il y avait une guerre tribale, on faisait appel à lui parce qu'il terrifiait les ennemis. Juste on entendait son nom, Antara il est arrivé, khlas, il faisait fuir les ennemis. Et il a demandé à se marier avec sa cousine, on lui a dit, ta cousine, elle n'est pas fille d'esclave. Il dit, moi non plus, mon père n'est pas esclave. Oui, mais ta mère, elle l'est. Sa mère, elle s'appelait Zabiba. C'est pour ça qu'il dit, yunadunani fissilmi yabna Zabibatin, dans un de ses poèmes. Yunadunani fissilmi yabna Zabibatin, wa'inda stidami l'khayli yabna l'ataibi. Il m'appelle, il me nomme, lorsque il y a la paix et qu'il n'y a pas de guerre, il m'appelle comment ? Il m'appelle fils de Zabiba. C'est-à-dire que pour eux, il est juste le fils de sa mère, le fils d'une esclave, le fils de Zabiba. وَعِنْدَ اصْطِدَامِ الْخَيْلِي يَبْنَ الْأَطَيِّبِي. Et lorsque les chevaux s'affrontent et qu'il y a la guerre, ah, que là ils ont peur et qu'ils ont besoin de moi, là ils me disent يَبْنَ الْأَطَيِّبِي. Oh toi, fils des meilleurs gens. Les meilleurs, c'est-à-dire fils de ton père. Il descend des meilleurs des lignées, tu fais partie des meilleurs, viens. Là il me considère là. Ah, naam. Et donc il dit, dans ce poème sur le nombre 70, il dit, Ya Abla, donc il s'adresse à qui? À Abla. Abla, c'est celle avec qui il veut se marier. Il dit, Ya Abla, لو أني لقيت كتيبة سبعين ألفا ما رهبت لقاها. Oh Abla, même si je devais aller affronter toute une armée, tout un contingent, dans laquelle il y en a 70 000 contre moi, ما رهبت لقاها, jamais je n'aurais peur d'aller la rencontrer, d'aller les affronter. Pourquoi? Pourquoi il lui dit ça à elle? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, on lui dit, bon, on avait dit non pour ton mariage, mais si tu viens et que tu nous aides dans cette guerre, là, cette fois, on va te laisser te marier avec elle. Et donc, il y allait. Et grâce à lui, on gagnait la bataille. Mais à la fin, on ne lui donnait pas ce qu'il voulait. Et après Rebolote, à la prochaine bataille, on lui disait la même chose. Vous allez me dire, ouais, mais à un moment, il ne se disait pas, ouais, mais il y a le hub. Quand tu es dans le hub, ton cerveau, il a beau te dire, ils sont en train de t'escroquer, comme la dernière fois, ils ne vont pas te la donner, mais lui, il croit quand même à cette lueur d'espoir, parce qu'il est atteint par cette pathologie très gravissime, qu'on appelle le hubbisme aigu. Non. Donc, pour terminer avec le nombre 70, dans ce poème d'ailleurs, Ajib, comment il s'adresse à elle, et qu'est-ce qu'il dit pour qu'on entende son désarroi, et en même temps, comment il se vante. Il dit, Ya Abla, يا عبلك من فارس خليته في وسط رابية يعد حصاها يا عبلة كم من حرة خليتها تبكي وتنعي بعلها وأخاها يا عبلة كم من مهرة غادرتها من بعد صاحبها تجر خطاها. Et ensuite, il dit le vers que nous, il nous a intéressé pour le chiffre 70. Il dit, Ya Abla, لو أني لقيت كتيبة سبعين ألفا ما رهبت لقاها. Et il termine ce poème en disant, وأنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها. Qu'est-ce que ces vers veulent dire? Le premier vers, Ya Abla, O Abla, كم من فارس, combien de cavaliers? Combien de combattants sur son cheval? C'est ça un cavalier. Combien de cavaliers? Khalaytuhu. J'ai laissé derrière moi. Il y a eu le combat entre moi et lui, et je l'ai laissé derrière moi. Khalaytuhu. Fi rabiyatin. Sur une petite colline. Ah, sur un mont. Je l'ai laissé sur un mont. Khalaytuhu fi wasti rabiyatin. Ya'uddu hasaha. En train de compter les cailloux qui sont autour de lui. Allez, je l'ai laissé pour mort, c'est fini. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de compter il y a combien de cailloux autour de lui. Il est valable que pour ça maintenant. Il ne peut plus rien faire d'autre. Parce qu'il ne peut, peut pas bouger de sa place. Et il le dit à qui? Il le dit à Abla. Parce qu'il lui dit, c'est pour toi que je fais tout ça. Ya Abla. Kam min hurratin. Combien de femmes libres? Pas des femmes, des femmes d'esclaves, des femmes d'hommes libres, des filles d'hommes libres. Kam min hurratin khallaytuha. J'ai laissé derrière moi après les batailles. Tabki wa tan'i ba'laha wa akhaha. Je l'ai laissé derrière moi après avoir combattu, en train de pleurer. Le ba'l, c'est soit son père, soit son mari. Wa akhaha, et son frère. Combien j'en ai fait pleurer, moi, des femmes? Pour toi, ba'l, abla, afwan. Et ensuite, il dit, kam min muhratin. Ghadartuha. Le mohra, c'est quoi? C'est le cheval. Plutôt la jument. La jument qui est bien forte. Il dit, combien de juments j'ai quitté après un combat, après un duel? Min ba'di sahibiha tajurru khutaha. Et qui, elle aussi, elle a laissé son cavalier derrière. La jument laisse son cavalier derrière, celui qui montait sur elle. Et elle est partie en train de traîner ses pattes, tellement elle est dégoûtée, elle aussi, de l'issue de la bataille. Ensuite, il dit le vers qu'on a traduit et cité tout à l'heure par rapport aux 70. Et à Abla, si je devais rencontrer un contingent dans lequel il y en a 70 000, jamais j'aurais peur d'aller les affronter. Et enfin, il termine par dire « Wa ana al-maniyatu wa ibnu kulli maniyatin. » Et moi, je suis le maniyah. Le maniyah, c'est quoi? C'est la mort. Et moi, je suis la mort. وَبْنُ كُلِّ مَنِيَّةٍ. Et je suis la mort et le fils de toutes les morts. Il veut faire peur à travers son poème, il veut aussi terroriser ses ennemis. وَبْنُ كُلِّ مَنِيَّةٍ. وَأَنَا الْمَنِيَّةُ وَبْنُ كُلِّ مَنِيَّةٍ. Je suis la mort et le fils de toutes les morts. J'ai oublié la fin que j'ai citée tout à l'heure. عَلَى كُلِّ حَالٍ. On a pris beaucoup de temps aujourd'hui, donc on va s'arrêter là. En tous les cas, on a répondu aux premières questions. Les autres questions qui sont comment le professeur Hassim va réagir, ou plutôt avant ça, il y a une question que j'ai oublié de citer, c'est quoi? C'est qui exactement? Est-ce qu'on a des noms, des personnes qui ont directement blessé le professeur Hassim? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bénilaï tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.